Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de C'est la faute à la manette, votre nouveau rendez-vous 100% consacré aux jeux vidéo, et je suis très très heureux d'être avec vous. Pour m'accompagner lors de cette nouvelle aventure, j'ai avec moi autour de la table l'homme dont le style n'a d'égal que ses casquettes, qu'il n'a pas d'ailleurs aujourd'hui, j'ai nommé Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous, bonjour Julien.
Alors Guillaume, présente-toi un petit peu à nos auditeurs, donc quel est ton rôle dans l'émission et quel genre de joueur tu es ?
Bon alors, je m'appelle Guillaume, donc je suis réalisateur de l'émission, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est réalisation, de passer des musiques, etc., des micros, et sinon bah, je suis plutôt ce qu'on pourrait appeler un geek normal, je joue un peu à tout, je joue sur Xbox, sur PC, sur mobile, et etc.
Très bien Guillaume, avec moi également l'homme à la barbe sexy et au pull à col roulé, j'ai nommé Tom. Salut Tom, comment ça va ?
Salut à tous, salut Julien, et bah écoute, ça va bien.
Alors, Tom, raconte également à nos auditeurs, quel joueur es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans l'émission ?
Alors moi, je serai donc l'interlocuteur de l'émission, et je suis un joueur, on va dire, complet. J'essaye de m'intéresser à tout, que ce soit sur PC, sur console, et je suis plutôt fan de jeux compétitifs.
Très bien, très bien. Alors quant à moi, je m'appelle Julien, donc alias Gorfus sur les réseaux sociaux, donc pour ceux qui nous écoutent. Donc moi je joue depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 3-4 ans, donc j'aime pas trop le PC, mon truc c'est plutôt les consoles, je suis plutôt voilà, un consoleux comme on les appelle, comme on les appelle dans le milieu. Voilà. Et mon rôle bah, ce sera de présenter l'émission comme vous pouvez déjà le constater. Alors, au sommaire, cette semaine, pas mal de choses. On va commencer donc par une petite sélection de news de notre cru, triées sur le volet et analysées de notre savoir expert sur fond de musique de Persona. Donc Persona, c'est une série de jeux de rôle japonais sur PlayStation, exclusivement sur PlayStation. Mmh. Ensuite, on passera au test découverte de la semaine, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment, avec un petit jeu mobile assez méconnu mais qui est vraiment vraiment plein de promesses. Enfin, on collera un petit peu à l'actualité avec la sortie du nouvel épisode en abordant le cas de Tomb Raider, donc le jeu de 2013, pas celui que les vieux ont connu en 1996. Et on se demandera donc s'il a révolutionné la série ou non. Alors vous aurez aussi droit entre chaque rubrique à une sélection de musique de jeux vidéo dont vous nous direz des nouvelles. Alors, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour les news ?
Oui. C'est parti pour les news.
Ok, alors... On commence avec toi Tom, tu voulais nous parler de la grosse sortie de la semaine.
Effectivement, alors cette semaine, la grosse sortie, c'est Xenoblade Chronicles X. C'est un soft donc de Monolith Soft, développé par Monolith Soft et édité par Nintendo. Il sort donc le 4 décembre. Et c'est donc un RPG japonais, comme la série dont on entend les musiques actuellement. À ceci près, donc, c'est un space opéra, donc ça se passe dans l'espace. L'histoire, c'est visiblement donc, l'humanité qui s'est exilée sur une planète dans l'espace et qui se crache donc, sur une planète plutôt hostile. Donc, aux commandes d'une équipe, on va devoir explorer cette planète, etc. Et combattre évidemment forcément des monstres, une multitude de monstres.
Alors est-ce que tu l'attends beaucoup ?
Alors moi je l'attends beaucoup parce que il se trouve que c'est la suite d'un RPG majeur sur Wii, qui s'appelait donc Xenoblade lui aussi.
Exactement.
Et qui donc, c'est une suite officieuse on va dire, c'est-à-dire que l'univers est plus ou moins le même, mais on retrouvera pas les mêmes personnages, etc.
Voilà, l'histoire ne se suit pas.
Voilà, exactement. Mm. Donc ça sort sur Wii U, ça aura probablement une durée de vie colossale comme son aîné. Et donc, moi, c'est pour moi la sortie de la semaine.
Très bien. Alors, à noter que vous pouvez déjà le trouver un petit peu dans les magasins en cherchant bien si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment impatient.
Exactement. Voilà. Guillaume, tu avais une news pour nous ?
Alors oui, c'est l'annonce d'un jeu de sortie sur 3DS annoncé dans le cadre du dernier Nintendo Direct. Pokémon Picross devrait célébrer son arrivée sur Nintendo 3DS, du coup, dans le courant du mois de décembre. Chose promise, chose due, le titre arrivera bien le mois prochain et se dote même d'une date de sortie précise. Donc dès le 3 décembre prochain, c'est-à-dire dans moins de deux jours, vous pourrez vous poser vos mains fébriles sur Pokémon Picross, un jeu gratuit qui marie l'univers des Pokémon au Picross. Un jeu de logique consistant à noircir les cases d'une grille pour y découvrir un motif. Donc 300 puzzles vous seront proposés, de quoi vous occuper de nombreuses heures durant, je pense. Bien entendu, qui dit free-to-play dit microtransactions, et ces dernières se manifesteront sous la forme de Picrit, une ressource que vous pourrez acheter via l'eShop, donc le magasin en ligne de Nintendo, et qui vous permettront par exemple d'accélérer la récupération de vos Pokémon fatigués ou de découvrir de nouveaux Pokémon. Voilà, voilà, Julien.
Alors, on peut préciser juste qu'un free-to-play, c'est un jeu de base qui est gratuit, que vous téléchargez gratuitement, mais qui nécessite de pouvoir acheter des petites choses en plus si vous voulez progresser un petit peu plus vite.
Oui.
Voilà, tout simplement, c'était pour la précision.
Alors, j'aurais une petite question sur le jeu. Est-ce que, du coup, on peut lier Pokémon Picross avec Pokémon tout court ?
Alors, apparemment, on pourra capturer des Pokémon donc en les découvrant via le Picross.
Ouais.
Donc, il y aura, je crois, une 150aine de bestioles pour commencer. C'est plutôt pas mal.
Il faudra raquer, je pense. Enfin, c'est ça, le souci, c'est de
l'argent. Ou avoir beaucoup de patience.
D'accord.
Ouais. D'accord.
D'accord, alors Julien, tu avais aussi une news, toi aussi, à nous donner.
Oui, alors je vais vous parler de Fez. Fez, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu indépendant sorti en 2012, hein, si je ne m'abuse, à l'époque sur Xbox 360, PS3 et d'autres machines par la suite. Donc, il est sorti en avril 2012, il avait toujours été jusque-là en dématérialisé. Et il s'offre aujourd'hui une édition limitée, collector, limitée à 500 exemplaires. Alors, jusque-là, on peut se dire, c'est super, ça va être super joli. Effectivement, la boîte est super jolie. Le seul problème, c'est que cette édition est vendue près de 100€. Donc 100€ pour une grande boîte en carton, certes magnifique, mais quand même 100€ pour du carton. Étant donné que le jeu est fourni sous forme de code dématérialisé. Donc, est-ce que c'est l'affaire de l'année ? Je ne pense pas.
La Pierre fera un peu la gueule, je pense.
Mais,
bon.
Mais alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir d'autres goodies dans cette collector ?
Oui, il y aura l'incroyable bande-son du jeu, également en dématérialisé, et bah, c'est tout. Voilà.
D'accord, donc c'est
un
vraiment
peu triste
dur.
Quand même. 100€, alors que le jeu, vous pouvez le retrouver facilement maintenant pour moins de 10€.
Ou même à 5€ pendant les soldes,
ah, donc voilà.
Facilement.
Donc c'est assez triste, je trouve.
C'est le carton le plus cher du monde. Voilà. C'est le carton le plus cher du monde.
Ça enlèverait en tout cas la qualité du jeu.
Le jeu est très bon, faites-le de toute façon. Voilà. Alors Tom, tu avais une autre news à nous présenter.
Oui, une autre news pour encore une sortie, mais d'un jeu moins récent, on va dire. Ce serait la sortie éventuelle de Final Fantasy VI sur Steam. Donc Final Fantasy VI est considéré par beaucoup comme un des meilleurs épisodes de la saga. Donc on ne présente plus. Il est tellement excellent en fait, donc Square Enix l'avait déjà porté sur beaucoup de plateformes, dont les mobiles qui ont eu droit à un portage en début 2014. Donc la firme ne semble pourtant pas vouloir s'arrêter là. Il y a une fiche qui a été récemment créée sur le site officiel de la PEGI, donc c'est ceux qui donnent la limite d'âge conseillée pour jouer à un jeu. Et le gestionnaire donc, de système d'évaluation des jeux vidéo européens vient de gratifier une version PC de Final Fantasy VI, donc d'un joli 12+. Et étant donné la tendance actuelle donc, de Square Enix à vouloir porter sa série phare, donc Final Fantasy, hein, sur PC et notamment Steam, ce serait pas étonnant de voir débarquer très prochainement le 6ème opus sur la plateforme. Ce serait plutôt une très bonne nouvelle, même si sur PC, pour découvrir ou redécouvrir ce jeu qui est réellement un classique.
Ouais, alors est-ce que ce serait une version remaniée ? Ce serait une version où c'est juste un...
Alors c'est simplement un portage. Donc,
c'est simplement un portage.
Les graphismes d'origine, tout en pixels, resteront présents.
Très bien, est-ce qu'il sera traduit ? C'est surtout ça qui est important.
Alors pour la traduction, on attend normalement donc, une annonce du studio. Mm-hmm. On suppose que non.
On suppose que non. La dernière version mobile avait été, elle, traduite.
Avait été traduite, d'accord.
Donc, il y a peut-être une chance pour qu'on retrouve justement ce classique tout en français, et ce qui serait pas un mal, d'ailleurs.
Ce serait même formidable. Cela dit, étant donné qu'on est sur PC, on peut peut-être s'attendre à une traduction de fan.
Tout à fait.
Qui peut arriver au cas où ce soit pas le cas.
Espérons que ce soit pas trop cher, du coup, s'il n'y a aucune amélioration graphique, quand même. Enfin...
Effectivement.
Je dirais
sur mobile,
quand même...
c'est 7 à 15€, je crois, il me semble. C'est
connaissance Square Enix, je pense qu'on peut tabler sur 10 à 15€ facilement.
D'accord. Bon, ça va, c'est parce que c'est quand même un grand jeu, donc... ça vaut le coup quoi pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui ont envie de le refaire parce qu'ils n'ont plus la console.
Pour peu qu'il y ait un petit peu d'amélioration, oui. Sinon, faites-le autrement.
Bah, intéressant tout ça.
On continue avec une news de Guillaume.
Encore, oui, j'ai une deuxième news. Donc, c'est le dernier mois de 2015 qui est bientôt là, donc décembre. Enfin, on est en 2000.
On est en décembre.
C'est le dernier mois qui vient de commencer. Et donc, Microsoft dévoile là non pas 4, mais 5 jeux qui font partie du programme Games with Gold en décembre sur Xbox 360 et Xbox One. Donc le principe du Games with Gold, c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes abonné au Xbox Live, vous avez le droit tous les mois à des jeux sur Xbox One et sur Xbox 360. Et du coup ce mois-ci, on se retrouve donc avec sur Xbox One le The Incredible Adventures of Van Helsing, donc le jeu sur le Vampire.
Le chasseur de vampires.
C'est ça. Donc vous pourrez l'avoir gratuitement sur Xbox One du 1er au 31 décembre. Et sinon, un autre jeu, FIF. Donc un jeu d'espionnage pas très bon, hélas.
Un jeu d'infiltration, donc tiré d'une grande série qui est à la base sur PC, mm-hmm. et qui sont les FIF. Je crois que c'est le cinquième épisode d'ailleurs, même s'il a été renommé pour l'occasion FIF, puisque personne ne la connaît justement sur le monde des consoles.
Ouais, voilà.
Et effectivement, c'est pas très bon.
Et oui, mais par contre, si vous voulez quand même le faire, malgré les conseils que nous venons de donner, vous pourrez l'avoir gratuitement donc du 16 décembre au 15 janvier sur Xbox One. Côté jeu Xbox 360, vous aurez donc trois jeux. Donc le premier c'est Castle Storm, du 1er au 15 décembre, donc un jeu Tower Defense un peu plus orienté action. Un autre jeu, ce sera du coup Sacred 3, qui est plus un jeu actionnaire PG, donc il y en a pas mal sur PC.
Alors il est un petit peu typé, je pense que tout le monde connaît Diablo, donc c'est un petit peu Diablo, mais c'est pas non plus le jeu de l'année, parce que c'est beaucoup de combats fermés dans des arènes.
Je vous conseille plutôt le deuxième opus, du coup.
Oui, ouais. Moi aussi.
Et le dernier jeu, du coup, ce sera un FPS tactique, du coup, nommé Operation Flashpoint. Donc cette fois-ci, ça sera l'opus Dragon Rising, qui sera disponible sur Xbox 360 gratuitement du 16 au 31 décembre. Donc voilà, si vous voulez, profitez-en, ou abonnez-vous tout de suite au Xbox Live pour profiter de toutes ces offres.
Profitez directement.
Voilà. Il me semble que tu avais autre chose à nous dire, Julien.
Oui, alors une dernière news, je vais vous parler un petit peu de... Alors, récemment sur Xbox One est arrivée la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité, c'est le fait de pouvoir jouer aux jeux d'une ancienne console sur une nouvelle console. Donc par exemple, les jeux Xbox 360 sont disponibles, en tout cas pour une partie, sur Xbox One. Ils peuvent être joués facilement en insérant son CD, il n'y a pas de souci, ça fonctionne et c'est gratuit. On a posé la question du coup à un ingénieur de chez Microsoft, Mike Ibarra, pour savoir si on pouvait étendre cette rétrocompatibilité à la toute première Xbox, donc la Xbox 1. Ça devient compliqué, oui, ça devient compliqué.
Donc, il compte très bien chez Microsoft quand même.
Exactement, donc 1360 et 1, tout à fait.
Ça fait 1361 quoi, en français. C'est pas mal.
Donc la première Xbox, peut-être que des gens ne l'ont pas connue ici, c'était la première console de Microsoft qui est sortie dans les années 2000 et qui avait une ludothèque plutôt intéressante et une très grosse manette, effectivement. Voilà. Et donc on a posé la question à cet ingénieur pour savoir s'il était possible de porter également les jeux de la première Xbox. Alors celui-ci n'a pas dit non, ce qui est déjà une bonne chose,
ah oui.
et nous a dit que son équipe adorait relever les défis, et que ça c'était vraiment un défi très très, très intéressant pour son équipe, donc il a ajouté à cela, rien n'est impossible, donc on peut espérer pouvoir jouer à tous nos jeux de la gamme Xbox sur Xbox One, donc ce qui en ferait une console, la console ultime du fan de Microsoft.
Ah oui, là j'avoue, il y a de très bons jeux sur la première Xbox, ouais. Donc n'hésitez pas,
Oui. C'est une fonctionnalité qui, on le rappelle, n'est disponible que sur Xbox One, c'est-à-dire que la PlayStation 4 n'est pas rétrocompatible.
La PlayStation 4, et Sony d'ailleurs l'a affirmé récemment, ne sera jamais rétrocompatible.
Ils disent que ça ne sert à rien, il me semble.
Ils disent que ça ne sert à rien et préfèrent nous sortir des jeux PS3...
HD.
Enfin,
comme
HD,
ça, ils gagnent un peu d'argent, quoi. Enfin.
Exactement, vendu 30€ pièce, voilà.
Ça donne envie, tout ça.
Donc voilà qui conclut les news, on fait tout de suite une pause musicale avec Guillaume.
Alors tout à fait, alors on va faire une pause musicale avec la musique de Persona 3 dans le G-Zone et c'est parti. We'll be right back. Donc on vient de s'écouter donc la musique de Persona 3 intitulée Danger Zone, et donc je vais donner la parole à Julien qui va nous parler du test de la semaine.
Oui, alors le test de la semaine, donc pour ce test découverte de la semaine, c'est très simple, on va vous présenter un jeu auquel l'un de nous trois a joué alors un petit peu plus que les autres, donc ce sera moi cette semaine, tandis que les deux autres l'ont très peu, voire pas du tout expérimenté, ça c'est plutôt mes deux acolytes. Donc comme ça, voilà, comme ça vous pourrez vous faire votre avis basé sur trois expériences différentes du jeu. Et ils pourront au besoin me poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit donc, sur ce jeu. Donc le jeu dont on va parler cette semaine, c'est A Blind Legend. Donc c'est un petit jeu mobile disponible pour les smartphones sous Android et pour les iPhones également depuis le 6 octobre 2015 dernier. Alors développé par une petite start-up française basée à Lyon, Dowino, le jeu a été financé par le biais du financement participatif sur Internet. Alors le financement participatif, qu'est-ce que c'est? En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de donner de l'argent à un organisme, une association ou une entreprise pour espérer voir son projet se concrétiser. Donc chaque somme a droit à des contreparties ou non, si on décide de ne pas en donner, allant du message de remerciement à des lots plus prestigieux, en fait tout dépend un petit peu de la somme qu'on donnera à l'entreprise. A Blind Legend donc, et il est bien de le préciser, est presque entièrement gratuit puisque le jeu en lui-même est gratuit, il y a juste certaines options un petit peu dispensables qui sont proposées à l'achat, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, la particularité du jeu, et aussi pourquoi on l'a choisi en jeu de la semaine, c'est qu'il s'adresse, et c'est presque une première dans le monde du jeu vidéo, ça avait déjà été fait, mais pas de façon aussi extraordinaire, c'est un jeu qui s'adresse principalement aux personnes déficientes visuelles, car le jeu n'est composé que de sons et se joue donc principalement à l'ouïe. Alors, l'histoire, c'est celle de Edward Blake, un chevalier aveugle parti sauver sa femme et guidé par sa petite fille Louise. Donc, lors de son voyage, il devra trouver son chemin, éviter des pièges, et affronter des monstres et des soldats ennemis. Le jeu utilise donc la technologie du son binaural. Donc c'est un son qui est en 3D. On peut l'entendre à droite, à gauche, derrière nous, devant nous, qui permet de mieux se...
En fait, moi, oui, j'avais déjà étudié ce genre de choses. En fait, c'est le cerveau qui fait le travail en fait, derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'il va calculer où le son est par rapport à lui.
Exactement, ça permet de se spatialiser un petit peu dans l'environnement.
Voilà.
Tout simplement. Donc on peut l'entendre très facilement. Ça permet de situer l'action et, voilà, j'ai dit, de pouvoir se déplacer facilement. Les amis, est-ce que vous avez des questions sur le jeu?
Alors, on va peut-être parler un petit peu avec Guillaume de à quel point est-ce qu'on connaît le jeu.
Bien sûr.
Donc moi, j'ai fait, disons, l'introduction. J'ai dû y jouer à peu près 45 minutes. C'est un jeu que j'ai trouvé pour l'instant vraiment prometteur, ouais, on va dire. Et la question, donc après ma session de jeu, la première question, en fait, c'est est-ce que ça se complexifie plus tard? C'est-à-dire, ce que j'ai eu à faire en début de jeu était assez basique, c'est-à-dire... La fille donc du héros me demande de la suivre et donc je dois localiser où est-ce qu'elle est avec, donc c'est un jeu à jouer au casque évidemment.
Ah, obligatoire d'ailleurs, hein, sinon c'est quasiment impossible, rien, oui. c'est impossible de s'y retrouver effectivement.
Voilà, et c'était pour l'instant quasi exclusivement ça, retrouver ce personnage qui me dit de le suivre. Donc est-ce que ça se complexifie réellement plus tard?
Alors oui, puisque au début, bien sûr, on t'apprend les bases, tu peux te tourner, tu dois te guider au son de la petite fille qui te dit un petit peu plus à droite, va un petit peu plus à gauche, là c'est bon, tu peux avancer et tout ça. Et un petit peu plus tard arrivent les combats. Donc tu combattras des monstres, des soldats, tout simplement, mm-hmm, avec un système toujours au son qui te permet de localiser, par exemple, un garde ennemi ou un monstre ennemi qui soit à ta droite, devant toi. Il faudra taper au bon moment pour pouvoir soit le contrer, soit pouvoir l'attaquer.
D'accord.
Tout simplement.
J'ai fait aussi un combat dans le jeu contre le premier monstre, en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à le combattre. Est-ce que le timing est toujours aussi serré?
Alors, pour moi, c'est un petit défaut du jeu, parce que c'est ce qui fera sûrement lâcher le jeu à pas mal de monde, c'est que le timing est toujours hyper serré pour ce qui est de soit de contrer l'adversaire, soit de l'attaquer. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des phases de contre. On a également un bouclier, que l'on doit appuyer au bon moment pour pouvoir repousser le monstre et pouvoir l'attaquer. Donc de temps en temps, soit c'est que des combats à l'épée, soit que des combats avec le bouclier, soit des combats où on doit localiser l'ennemi. Par exemple, si l'ennemi nous attaque vers la droite, il faut faire glisser son doigt vers la droite.
D'accord, donc en fait le système de déplacement et de combat c'est que via l'écran tactile, il n'y a pas par exemple de gestuel comme on pourrait imaginer avec comme une Wiimote quoi.
Non, puisque c'est sur téléphone mobile et c'est pas une console de jeu directement.
D'accord, donc oui, que l'écran tactile.
Que l'écran tactile, ouais. Pas de système de son, uniquement l'écran tactile. Même d'ailleurs si vous êtes voyant, ça changera rien du tout à l'expérience parce que c'est juste un espèce de voile gris.
Avec de la fumée, il me semble.
Avec de la fumée qu'on peut désactiver au besoin, mais voilà, rien d'extraordinaire.
D'accord.
Tout simplement.
Donc toi, Guillaume, t'as un petit peu joué au jeu.
Ouais, moi aussi, j'y ai joué. Donc au début, c'est vrai que ça peut être rebutant quand tu entends la voix de début d'une espèce de, de voix Google Voice, un peu genre « Bonjour, bienvenue dans Blind Legend. Vous allez maintenant être Edward Blake qui se fait guider par sa fille pour rejoindre sa femme. » T'es là genre « Bon, c'est pas très immersif, mais on va passer. » Et après, c'est vrai que ça commence à être immersif, donc tu t'entends marcher un petit peu. Après, le début, c'est assez pénible, je dirais, parce que en fait, tu passes ton temps à cliquer pour entendre ta petite fille dire « Suivez-moi, ouais. C'est par là !» Du coup, t'es là genre « Bon, enfin, il se passe pas grand-chose. » Et j'ai peut-être sûrement pas assez joué pour avoir du coup toute l'expérience du jeu parce que ouais, j'ai pas joué assez longtemps, j'ai pas eu le temps.
Ça devient beaucoup plus intéressant en tout cas pour la suite. Moi, je l'ai pas fini parce que je suis bloqué à un endroit. Mais en gros, ouais, ça se complexifie de plus en plus. Parce qu'il y a un passage qui a un pic de difficulté absolument ahurissant près d'une falaise. Je n'en dirai pas plus, mais...
Mais ça pourrait donner des idées pour un jeu d'Arteville en fait.
Eh oui, c'est vrai.
Ça pourrait être une très bonne idée,
c'est
en fait.
C'est pas bête.
Peut-être une déclinaison, oui.
Voilà, voilà.
Ça éviterait de payer des graphistes. Ça éviterait
Voilà. Ouais, bah pour les graphismes, on a pris un moteur très simple. En fait, il n'affiche aucune image.
Voilà, il affiche du vent et du brouillard.
Ça peut être
très bien. C'est très bien.
Du coup, tu parlais du système de combat. Donc, je suppose qu'il y a de la mort, qu'on peut mourir dans le jeu. Moi, dans le premier combat que j'ai fait, donc, j'étais invincible et j'ai quand même eu beaucoup de mal. est-ce que peut-être les options payantes ont rapport avec le système de combat ?
Exactement. Donc, c'est exactement ça. Dans le jeu, vous avez 5 vies.
D'accord.
Donc, à un moment du jeu, on meurt assez souvent. Donc, on voit les vies défiler, se perdre de plus en plus. Alors, ce que le jeu vous propose, c'est de racheter des vies une fois que vous n'en avez plus pour pouvoir continuer à jouer plus vite.
Sinon, tu attends comme Candy Crush, quoi.
Exactement. Si je dis plus vite, c'est que les vies remontent toutes seules toutes les 20 minutes. Vous avez une vie supplémentaire. Donc, jusqu'à 5 vies maximum. Donc, ça fait toutes les 1h20. Voilà, vous pouvez repartir à l'aventure assez longtemps.
D'accord, ouais.
Globalement c'est ça, vous pouvez acheter des vies en plus. Je pense que c'est plus une idée pour soutenir le studio plus qu'une idée pour se faire de l'argent. Je pense que le jeu est pas assez pervers pour penser à l'achat. Même l'option d'achat est plutôt cachée, donc c'est pas du tout ça qui est mis en avant. L'idée c'est vraiment de faire un projet culturel et assez innovant pour le téléphone.
D'accord, ouais.
Voilà.
Ok.
Et au niveau de tes sensations, des sensations de jeu en fait, parce que donc c'est vraiment au casque, donc le sound design est primordial. Moi j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Est-ce que c'est aussi ton avis ?
Moi je confirme que le son est vraiment exceptionnel. Rien qu'au début on se croit vraiment dans une espèce de place de marché au Moyen-Âge. On entend les marchands qui crient, qui essayent de vendre. De vendre leurs pommes de terre, on entend les chevaux qui passent, le vent, enfin on entend tout en même temps, et des fois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se concentrer sur la seule voix qui a finalement de l'importance, c'est celle de la petite fille.
Oui.
Justement, mais justement ça donne quelque chose de réaliste et d'assez assez proche de la réalité. Moi je m'y croyais vraiment.
D'accord, donc tu disais que c'était sorti sur Android et iPhone, c'est tout ?
Android et iPhone uniquement.
Ok, bah alors du coup, moi pour compléter, je dirais, moi j'ai possédé avant un Windows Phone et il n'y a pas de jeu style comme ça, mais il y avait une application, donc je recommande pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un iPhone ou un téléphone Android, c'est une application de 3D sonore qui vous permettait en fait de vous faire couper les cheveux en 3D sonore. Et ben je peux vous dire que c'était impressionnant.
Ah mais oui, je connais ça.
Et donc si vous avez l'occasion de tester la 3D sonore juste pour les sensations que ça donne, si vous ne pouvez pas tester le jeu ou quoi que ce soit, soit vous tapez sur Google 3D sonore, soit vous avez Windows Phone et vous cherchez cette application, c'est génial.
D'ailleurs, en 3D sonore, il y avait aussi un autre son qui permettait, je sais plus, je crois. En gros, on t'imaginait dans un canapé et t'entendais une porte s'ouvrir, des meubles claquer, des choses comme ça. C'est absolument exceptionnel.
Moi, je m'entendais froisser du journal près de moi. Non,
oui,
vrai,
c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est.
Voilà. Même Audi avait utilisé cette technologie à un moment pour une pub au cinéma où vous entendiez le moteur d'une voiture. C'est assez impressionnant. Donc, on peut voir que en termes de technologie, et c'est dommage que ce soit pas assez exploité dans le jeu vidéo quand même pour le côté immersif. Pour l'instant, on a juste une spatialisation un peu à la 5.1, donc le son home cinéma, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais une spatialisation 3D comme ça pourrait être vraiment intéressante pour, par exemple, un jeu d'horreur, nous faire peur, quoi. Enfin, moi, je vois, c'est très immersif, par exemple.
Ce serait très intéressant sur un Resident Evil ou un Until Dawn ou ce genre de titre récemment sorti.
Mmh, voilà, d'accord.
Simplement. Et ben voilà qui conclut du coup notre test de la semaine. Donc,
est-ce que tu conseilles donc ce jeu au plus grand nombre ?
Oui, il est gratuit, allez-y, essayez-le, ça peut que faire du bien à un studio qui a vraiment de l'innovation, donc allons-y.
D'accord. Voilà.
Alors on passe tout de suite à une nouvelle pause musicale avec Guillaume.
Alors maintenant nous allons nous écouter donc une musique de la bande Fez, donc on a parlé tout à l'heure dans les news, et donc la musique s'appelle Forgotten. A tout de suite sur Radio Campus. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM, donc on vient de s'écouter la musique de la bande originale de Fez, donc c'était Forgotten, et on est toujours dans l'émission C'est la faute à la manette. Et là on passe à la présentation d'un jeu, Julien, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors le jeu de la semaine, donc cette semaine, c'est le reboot, donc le... Comment on pourrait définir le reboot ?
Alors reboot, c'est quand on prend une série et qu'on revient à ses bases, c'est-à-dire qu'on garde les personnages, mais...
On remet tout à zéro. Voilà, donc le reboot de Tomb Raider, donc, qui est une série que je pense tout le monde connaît, qui est née en 96. Là, on va parler du reboot de 2013, et avant de parler un petit peu plus en détail du jeu, je vais faire un petit tour de table pour savoir un petit peu comment mes acolytes ont connu Tomb Raider. On va commencer par toi, Guillaume.
Alors moi... Mis à part mon jeune âge, vu que le premier Tomb Raider est sorti en 96, et ben j'avais Tomb Raider sur PlayStation 1, j'avais le tout premier épisode. Donc je me rappelle de cette Lara Croft avec des polygones tellement magnifiques qu'il faisait fantasmer tous les joueurs du monde entier, je pense. Et le 1, j'y jouais un petit peu, mais ça me rebutait assez, le gameplay un peu archaïque, mais à l'époque c'était quand même très moderne. Après, j'y ai joué un petit peu sur Wii au Underworld, je crois.
Underworld, oui, il était sorti.
Que j'avais bien aimé. Et là, j'ai surtout fait du coup la version de 2013 sur PC et sur Xbox One. Et je dois dire qu'une grosse mention pour les cartes graphiques de PC, quand vous pouvez faire l'effet très SFX sur les cheveux de Lara, qui sont magnifiquement bien faits. Mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
Animé au poil de cheveux. Donc.
Au poil de cheveux près, c'est, c'est impressionnant quand même. Voilà.
Alors, Tom ?
Alors, quant à moi, j'ai connu la série par le premier ou le deuxième épisode, je ne m'en rappelle pas très bien, parce que c'était donc un membre de ma famille qui me l'avait donc montré sur PC.
Oui.
Et moi, étant petit, j'étais un joueur Nintendo, donc je n'ai eu ni PlayStation ni PC suffisamment puissant en fait pour faire marcher Tomb Raider. Et c'est une série donc que je connais, on va dire, bien, mais via d'autres médias, via plutôt la télé ou les films qui sont très mauvais, mais qui ont le mérite d'exister. Et donc je n'ai fait aucun des jeux. Enfin, j'ai joué donc à celui dont on va parler, le reboot de 2013. Mais j'ai aucun, on va dire, antécédent sur Tomb Raider.
D'accord. Alors, quant à moi, j'ai connu Tomb Raider à partir du 2, donc sur la première PlayStation. Ensuite, j'ai eu un gros moment de vide, en fait, sur les Tomb Raider. Moi, c'est vraiment le 2 qui m'avait marqué quand j'étais enfant, même si j'avais jamais passé le deuxième niveau. Même si j'essayais de faire des codes, voilà, pour être invincible, d'autres codes dont on ne parlera pas à l'antenne.
Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Nous n'allons pas en parler à l'antenne, vous trouverez tout seul sur Internet.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu un gros moment de vide avec Tomb Raider, donc j'ai pas du tout fait ceux d'après. Alors, on peut rappeler juste qu'il y a eu quand même 5 épisodes sur PlayStation 1.
D'accord.
5 épisodes donc sortis tous les ans de pire en pire, justement, et c'est ce qui a fait que la série a coulé une première fois. Il y a eu un retour donc de la série sur PlayStation 2 avec un jeu certes magnifique mais absolument injouable, donc il s'est planté une deuxième fois. Et ensuite le retour, moi j'ai repris après Tomb Raider Legend, donc sur PS2, Xbox 360, donc toute la trilogie Tomb Raider Legend, le remake du tout premier.
C'était Anniversary.
Anniversary, voilà, c'est ça. Et donc de celui dont tu as parlé, Tomb Raider Underworld.
Okay.
Donc après ça, la série a encore rebooté. C'est pas que les jeux étaient mauvais, mais c'est qu'il voilà, il fallait changer un petit peu la dynamique de jeu.
Oui, elle était plus ancrée en fait. Ça marchait bien à l'époque, mais c'est vrai que maintenant on a des gens comme Nathan Drake pour Uncharted.
Exactement, on a eu d'autres standards depuis Tomb Raider.
Dark Souls Aventure, ouais.
Voilà, donc sachant que le jeu Uncharted, donc sur PS3, s'inspirait de Tomb Raider à l'époque, et que le nouveau Tomb Raider s'inspire de Uncharted, qui lui-même s'inspirait de Tomb Raider.
La boucle sans fin.
La boucle sans fin, Inception dans le jeu vidéo. Voilà. Alors, je crois que Tom avait une petite chose à nous dire donc sur Lara, sur son évolution un petit peu dans les médias.
Exactement. Il se trouve que donc Lara Croft, comme je vous disais, moi je l'ai connue surtout à travers les autres médias, autres que le jeu vidéo, j'entends. C'est-à-dire que Lara Croft, c'était une héroïne dont les médias se sont emparés réellement pour faire de la pub. Non, c'était une des premières héroïnes de jeux vidéo sexy, en fait, qui a été vraiment objectifiée. Et ce personnage donc a été par exemple en couverture de Playboy. C'était très très nouveau à l'époque.
Et par deux fois, je crois.
Par deux fois, oui. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, il y a aussi une pub pour les voitures Seat, la Ibiza,
oui.
Avec donc Tomb Raider. Et c'était donc vraiment un personnage. C'était l'avènement d'un personnage qui dépassait le virtuel pour essayer de s'aventurer un petit peu dans la pub, principalement, on va dire mainstream, donc que tout le monde pouvait regarder. Et c'était quelque chose qui a été beaucoup critiqué au final, parce que donc c'était vraiment une femme objet, alors que dans les jeux, même si elle avait une personnalité aventureuse,
c'est
etc.
C'est plutôt une femme forte, de
voilà,
base.
C'est plus une femme forte que, on va dire, une femme fatale.
C'est ça. Donc oui, il faut rappeler que Lara Croft, c'est à la base une aventurière. C'est quelqu'un qui parcourt le monde, qui est très inspiré de Indiana Jones, à la base. C'est effectivement pas du tout ce que dégageaient les médias de cette héroïne.
Effectivement, alors, il y a une petite anecdote sur le développement donc, de Tomb Raider. C'est qu'un jour, donc, ils avaient fait le modèle en 3D donc, du personnage, et que par plus ou moins par erreur ou pour une blague, un des développeurs aurait mis donc la taille de la poitrine de Lara au maximum, et qu'en montrant donc ce changement aux autres développeurs, ils auraient décidé de le laisser. Et donc Lara était très connue dans les médias pour sa poitrine, donc c'était vraiment un mauvais moment, on va dire, à passer pour l'image de ce personnage.
Est-ce qu'on peut parler de la plus grande icône du jeu vidéo des années milieu des années 90?
Alors, à laquelle tu penses? À Lara, tu veux dire, est-ce qu'on peut parler de la plus grande icône? Je sais pas, parce que
franchement, trouve un autre personnage féminin marquant dans l'histoire du jeu vidéo.
Alors féminin, c'est sûr que Lara Croft a une énorme part à jouer, en tout cas là-dedans, surtout en termes de balayage médiatique.
En plus, il y a eu deux films quand même Tomb Raider, et ils sont sur l'idée d'en faire un troisième, donc c'est quand même que
c'est
quelque chose qui est très marqué dans.
Mais quelles autres héroïnes on pourrait citer? Bon, peut-être pas aussi marquantes.
Bayonetta, moi.
Bayonetta, ouais, je pense que c'est un peu le
très bon.
Le symbole de la femme forte et actuelle.
Alors, niveau plus ancien, on peut citer Samus Aran d'une série de jeux Nintendo qui s'appelle Metroid, qui était une des premières femmes vraiment qui avait un personnage dans un jeu.
C'est vrai, c'est vrai. On pourrait parler de Jed dans Beyond Good and Evil,
voilà.
un jeu d'aventure qui a été fabriqué par Michel Ancel, donc le papa de Rayman, qui était aussi une femme très forte et journaliste d'ailleurs, si je me souviens bien.
Voilà. Donc il n'y a pas que des femmes objectifiées dans les jeux, même si ça arrive beaucoup trop souvent.
Le gros souci, c'est que souvent les femmes comme ça fortes sont pas importantes dans l'histoire. C'est-à-dire que t'en as de plus en plus maintenant, mais parce qu'on veut se rapprocher un peu du cinéma, j'ai envie de dire, dans les jeux vidéo. Donc on essaie de faire un personnage fort, mais ça a été prouvé maintes et maintes fois, un personnage féminin ne vend pas un jeu. Il y a plein d'études qui ont été faites sur ça.
Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, où des jeux où des femmes étaient justement les héroïnes et qui étaient mises vachement en retrait par rapport...
Il y avait Evenly Sword, par exemple, sur PS3.
Evenly Sword, oui, même si le jeu a vraiment fait un bide. C'est vrai que le jeu avait une héroïne plutôt sympathique.
Je me souviens plutôt de Andy Serkis, moi, je crois, dans Evenly Sword. C'était celui-là où on avait une performance capture d'Andy Serkis, donc l'acteur de
Gollum. Je me souviens plus.
Je crois que c'était l'antagoniste.
Peut-être.
À moins que ce soit un des autres jeux du lancement de la PlayStation 3, mais j'ai souvenir que ce soit celui-là.
Ouais. Il y a eu Ellen Page aussi qui a...
Oui. Elle a fait Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, voilà. Elle a fait de la motion capture.
Elle ressemble beaucoup à l'héroïne du jeu The Last of Us aussi, mais qui n'a aucun lien.
Oui, Ellie, d'ailleurs, oui, on pourrait d'ailleurs la citer comme une femme.
Comme une femme.
Comme une femme, non, faut une le enfant. Dire vite. Ouais.
Elle est adolescente, c'est vrai. Donc The Last of Us, un jeu sorti sur PS3 également.
Tout à fait. Pour revenir du coup à Tomb Raider, est-ce que Julien, tu peux nous parler donc de cette version de 2013?
Eh ben écoute,
on va peut-être faire une pause musicale avant.
Une petite pause musicale, ouais.
Comme ça, l'histoire de digérer un peu toutes les informations qu'on vient de donner.
Ça marche.
Donc moi, je vous propose d'écouter un remix du thème principal de Tomb Raider. Donc c'est parti, donc Tomb Raider, le remix. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette, et donc on revient sur Tomb Raider.
Alors donc je vais vous présenter donc vite fait un petit peu le jeu de 2013. Donc Tomb Raider, c'est un jeu d'action-aventure sorti en 2013 sur Xbox 360, PS3 et PC. Donc une version mise à jour a été mise en vente sur PlayStation 4 et Xbox One un an après. Donc avec une petite amélioration graphique et tous les contenus téléchargeables qui étaient sortis jusque-là. Pour l'histoire, donc, Lara Croft est une étudiante britannique de 21 ans. Elle part pour sa première expédition avec un groupe d'amis et collègues à bord d'un navire d'exploration moderne. persuadé qu'un royaume perdu se trouve quelque part dans le Triangle du Dragon, une zone au sud du Japon connue pour ses violentes tempêtes. Lara convainc le capitaine du navire d'en prendre le cap, mais pris dans une tempête, le bateau s'échoue sur une île où Lara est capturée mais finit par se libérer. Désormais seule, elle utilise les connaissances de survie en milieu naturel de son père et part à la recherche de tous ses amis. Voilà, alors on va nous se poser la question, est-ce que ce Tomb Raider a révolutionné la série ?
La série, bah, je dirais oui, elle s'est modernisée en fait. C'était une grosse claque graphique, autant graphique qu'en termes de mécanique. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça changeait totalement de moi, de tout ce que j'avais pu faire. Et du coup, c'était peut-être plus grand public. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde pouvait jouer. Je me rappelle, quand il est sorti, c'était une énorme hype. Tout le monde jouait à ce jeu.
C'est vrai qu'il avait été présenté en grande pompe dans un salon du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'il avait fait une grosse, grosse impression. Parce que le jeu, on avait rarement vu quelque chose d'aussi beau pour l'époque.
Oui, il était magnifique en plus de ça.
C'est vrai qu'il était très, très beau.
Ouais.
Je me souviens particulièrement d'une scène hommage au film d'horreur The Descent. Où, dans l'introduction, où donc Lara escalade une pile de débris qui
au
lui tombe
début.
Dessus,
ouais.
Voilà, exactement dans l'introduction, où j'étais bluffé par les effets de lumière.
C'était ouais, assez impressionnant, enfin, mais ce que je redisais tout à l'heure, là, les effets de cheveux quand t'avais une carte graphique Radeon, il me semble, où tu voyais cheveux par cheveux, et c'était, mais franchement, enfin. Mais tout enfin, dans ce jeu était beau. Autant. Bah, après, le problème, c'est peut-être que c'était un peu toujours la même chose, vu qu'on était sur une île.
Ouais. Vous l'avez fait sur quelle plateforme du coup ?
Alors moi sur PC One.
Moi j'y ai joué sur Xbox 360. J'ai
ouais.
fait en fait plusieurs fois les premières heures du jeu, donc je l'ai pas fini.
D'accord.
Mais je sais de quoi il en retourne.
D'accord. Alors moi j'ai fait la version Xbox 360 donc en entier, et comme je suis un pigeon, je l'ai racheté sur Xbox One parce que j'adore ce jeu. J'adore l'ambiance de ce jeu, j'adore les décors de ce jeu, j'adore. L'histoire est plutôt anecdotique. Hein.
Oui, bah c'est un reboot, donc c'est même un origine,
c'est
un peu.
C'est vraiment les origines, ouais, c'est vraiment les origines et la façon dont Lara Croft finalement s'est formée et est devenue cette aventurière qu'on connaît et qui sera à mon avis un petit peu plus développée dans l'épisode d'après qui vient de sortir.
Là, on a une Tomb Raider très rajeunie, même en termes visuels, c'est-à-dire qu'elle a des traits du visage très fins, très doux, elle n'a pas encore vécu un peu toute l'horreur de tout ce qu'elle a fait dans toutes ses aventures.
Et Dieu sait qu'elle va en vivre, d'ailleurs, pendant cette aventure. Hein.
Voilà, oui, en fait, tu as l'impression... Moi, j'ai eu l'impression qu'il lui arrivait toujours quelque chose de pire. C'est-à-dire,
moi aussi.
Le début, elle commence elle se prend un truc dans le ventre, elle saigne et tout, tu te dis, bon, c'est pas cool et tout. Et tout au long de l'aventure, il lui arrive des trucs, tu te dis, mais c'est MacGyver ou quoi ? Enfin, elle arrive à survivre à tout.
Alors, il faut savoir qu'elle a, je crois, 17 ans dans cet opus.
On n'avait pas dit 21 ?
Ah, je sais plus. Moi, il me semblait que c'était 17 ans.
D'accord.
Personne à la.
Là, l'info. J'ai pas l'info. Alors, mais...
Moi, j'ai la feuille ici. Lara Croft est une étudiante britannique
oui,
de 21 ans.
Ouh là là,
j'ai même l'impression que c'est toi qui l'as dit.
J'oublie même ce que je dis. C'est incroyable.
Ouais.
Mais elle fait très jeune.
Ouais,
c'est vrai qu'elle fait très jeune dans
d'où
tous les cas.
D'où la confusion.
Et
ouais.
Du coup, je voulais revenir sur le fait qu'on a eu en plus de très bons doublages. Je suis que la voix de Tomb Raider a été faite dans cette édition par Alice David, qui est en fait une actrice qui a joué dans la série Bref et.
Oui.
Plus récemment dans le film Babysitting. Et en plus ça correspond très bien au personnage, je trouve.
Oui, c'est vrai, la femme un petit peu moderne, indépendante et
mais en même temps avec une voix un peu douce, enfin c'est pas non plus je suis un homme quoi.
Du coup Guillaume, est-ce que tu dirais que t'as aimé cet opus autant que Julien?
Alors moi je l'ai beaucoup avancé, je l'ai peut-être pas fini, je suis en train de le finir, mais je dois avouer que il est agréable à jouer. Après, ce que j'ai peur, c'est qu'on est toujours dans une logique de jeu vidéo, c'est-à-dire tu veux aller d'un point A à un point B, sauf que dès que tu vas pour arriver au point B, en fait, il t'arrive une péripétie qui fait
Raider,
que tu n'arriveras jamais au point B. Et donc, il va falloir que tu fasses un gros détour pour arriver à un point C qui t'amènera au point D, qui t'amènera au point E pour enfin finir au point B. Mais finalement, il faudra que tu ailles autre part.
Alors, Tomb Raider, c'est plutôt une logique de point A à point B en passant par A1, A2, A3, A4.
D'accord.
Donc, plutôt que d'aller tout droit, on te fait bifurquer à droite,
mais
un peu à gauche.
C'est pas trop choquant. J'ai vu des jeux pires que ça. Par exemple, moi, j'ai le plus gros exemple, c'est pour moi, c'est Bioshock Infinite. Mais là, j'ai trouvé que ça allait. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout le système de compétences à améliorer.
Oui, c'est vrai.
C'est pas trop mal. Les compétences sont cool. Par exemple, tu peux tuer les gens plus rapidement, etc. Mais c'était surtout la customisation des armes, etc. Tu pouvais tirer plus, que tu pouvais avoir des sensations dessus et tout. Comme ça, tu pouvais vraiment adapter le jeu à comment tu joues, si c'était plutôt infiltration, si c'était plutôt rentre dedans, etc.
Ouais.
Ça, j'avais bien aimé.
Un petit problème d'ailleurs moi, que j'avais vu avec ce jeu et qui continue à me choquer quand je l'avais refait aussi la dernière fois, c'est qu'au départ, la mort, Lara n'a jamais tué personne, en fait, avant un certain point dans le jeu. on nous scénarise très très bien d'ailleurs cette première mort qui montre un espèce de passage.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai
voilà,
fait
ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Et cette première mort est très bien scénarisée. Le problème, c'est que toute la suite ne l'est pas. C'est-à-dire que le remords qui est là pour cette première mort, finalement, dans le jeu, elle se transforme directement en Rambo, en fait, à sa deuxième mort. C'est-à-dire ouais. qu'on pourrait voir qu'au fur et à mesure, bah, elle n'en peut plus, qu'elle aimerait bien arrêter tout ça, effectivement. Elle se plaint, mais uniquement parce que voilà,
scénaristiquement, voilà,
elle tombe sur plein de choses assez horribles. Elle se fait mal très très souvent oui. d'ailleurs. Mais effectivement, ça aurait pu être un petit peu plus développé de ce côté-là.
Oui. C'est-à-dire que c'est la femme forte, mais là, c'est un peu trop abusant. Enfin, un être humain ne peut pas vivre ça. Enfin, voilà. Je pense pas.
Pour moi, c'est le principal défaut du jeu. Alors, pour ce test, je serai l'avocat du diable. c'est un jeu que j'ai bien aimé, en fait, que j'ai trouvé agréable, mais sans plus, en fait. C'est-à-dire que je lui ai pas trouvé de défaut majeur, mais je l'ai jamais trouvé brillant, en fait, à cause de donc, ce dont on parlait, de cette mise en scène où tout arrive à Lara et tout ce qui peut arriver va arriver. Mmh. C'est vraiment, elle est vraiment victime de la loi de Murphy, où j'ai eu des scènes que j'ai trouvées too much, en particulier une où un avion s'écrase sur nous et tous les débris nous passent à travers.
Oui, oui, oui.
Et donc Lara, même si elle fait des petits cris de cabri, s'en sort complètement indemne.
En fait, ça, je trouve que ça fait très en fait Call of Duty, c'est-à-dire que tu as des oui. scènes assez impressionnantes. Ouais. Mais il t'arrive rien.
Exactement. Je trouve que tout arrive pas réellement au personnage, mais autour du personnage.
C'est assez bluffant visuellement, parce voilà. que du coup, voilà, mais c'est vrai que tu la sens jamais en danger parce qu'elle survit à tout.
Exactement. C'est exactement ce que
on
je voulais dire.
On peut parler de ces scènes un petit peu abusées aussi, où elle glisse dans une rivière.
Oui, je m'en rappelle. J'allais
un
le dire,
petit
oui.
peu tous les... Bah, tout, les obstacles, tous oui. les obstacles, et elle peut sortir son fusil à pompe dans la rivière pour exploser des planches de bois et pour pas se faire transpercer.
Par contre, c'est très rigolo quand tu n'arrives pas à sortir le fusil à pompe et qu'elle meurt. Je oui. t'avouerai que c'est très bien fait, genre tu l'as embroché, c'est assez affreux.
Oui, les morts étaient assez gore.
Et en plus, c'est pas un passage évident. Il y a des passages oui. vraiment un peu ridicules, puisque finalement, c'est de la difficulté...
C'est assez aseptisé quand même, mais c'est...
Ouais. C'est surtout artificiel.
C'est très voilà. artificiel, ouais.
Mmh. Oui, c'est ça le gros souci, en fait. C'est que c'est plus un jeu où tu te... où c'est plaisant, mais t'as pas une difficulté que pouvoir trouver un gros gamer, peut-être.
Pour en finir avec mon avis, j'ai un deuxième principal problème avec le jeu, c'est que, donc, en ayant vu les trailers de ce jeu, j'étais vraiment... J'attendais ce jeu, en fait, en me disant, super, un jeu de survie avec Lara Croft. Et j'en ai du coup, moi qui connaissais peu la série, j'en ai un petit peu oublié ce qu'était réellement Tomb Raider, et je m'attendais vraiment à de la survie, on va dire, hardcore, donc difficile, avec de la chasse dedans, et un sentiment d'être perdu sur une île, et en fait c'est pas du tout ça le jeu, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu.
On peut noter aussi la disparition des énigmes, enfin en tout cas de la plupart des énigmes.
Il y en a très peu, mais pas vraiment très évolué.
Pour ceux qui ont fait les premiers Tomb Raider c'était beaucoup d'énigmes, de choses cachées, des boutons à droite à gauche.
Je pense que c'était quand même aussi ce jeu-là est très racoleur justement pour amener un plus grand public.
Oui, je pense que c'est l'ouverture au grand public qui a fait que ce jeu.
Tous les jeux sont un peu comme ça, c'est à la mode un peu de tous ces jeux qu'on peut retrouver tous les ans, les Assassin's Creed, les Call of Duty, où que ce soit assez simpliste, mais en même temps bluffant, et qu'il y a un peu de difficulté, pseudo-difficulté, pour que le joueur reste quand même connecté au jeu.
D'ailleurs, même si le premier a plutôt bien marché, même si selon son éditeur, c'est pas le cas, il me semble qu'il a été vendu à 5 millions d'exemplaires, un peu plus, voire 8 millions, le nouveau ne fonctionne pas très très bien.
Apparemment non.
Le problème, c'est qu'il a quand même face à lui, on est en pleine sortie de Noël, et il y a beaucoup de jeux, et les gens vont plus vers les jeux multijoueurs aussi.
Et le problème, c'est qu'il est sorti uniquement sur Xbox One et PC.
En plus, oui.
Donc tout le parc PS4, pour l'instant, est complètement oublié.
C'est pas faux, le problème, c'est que c'est un jeu solo, et les gens, ils se disent, pour les PC, par exemple, il y en a qui vont plutôt le télécharger, ou qui vont plutôt mettre leur achat sur d'autres jeux qui sont plus prioritaires pour eux, qu'un jeu solo qui peut baisser de prix dans...
C'est un jeu que solo. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de multi, la rejouabilité n'est pas folle.
Tomb Raider 2013 avait pourtant un multi.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Mais là, autant attendre une Tomb Raider 2 définitive édition et avoir tous les DLC que l'acheter à plein tarif, 70€ quoi.
Ouais.
C'est pour ça, je pense, qu'il est plus redoutable.
Alors, est-ce que ce jeu, pour vous, est une révolution pour le jeu vidéo? Pour le jeu vidéo, dans un premier temps.
Pour le jeu vidéo, non.
Non.
Alors, pour moi non plus, c'est pas du tout une révolution parce qu'il reprend vraiment beaucoup de mécaniques qui sont dans d'autres jeux. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu un petit peu de survie de ce genre-là. On avait déjà vu le système de combat dans Uncharted, principalement. Oui. Même donc cette mise en scène grandiloquente. Pour moi, tout ça, c'est du déjà-vu.
Disons que Tomb Raider s'inspire un petit peu du meilleur, en fait, du meilleur de ce qui a été fait dans ce genre un petit peu flamboyant, un petit peu cinématographique. Il prend tout au même endroit, il le réunit, il en fait un jeu assez explosif et assez...
Oui.
Assez Moi, je le trouve assez culte, en fait, dans...
Je le trouve solide.
Solide, ouais. Oui, c'est une bonne définition.
Non, mais pour la fin de vie de la Xbox 360 et la PS3, ça reste un très très bon jeu, quoi. Et moi, ça a été un plaisir de l'acheter sur Xbox One.
Ouais.
Et en plus, il n'était pas très cher. C'est ça qui est cool,
en plus.
Oui, c'est un jeu qui a été énormément en promotion.
Oui.
Alors, est-ce qu'il a révolutionné, du coup, la série ?
Alors oui, clairement, bah, la preuve, ils ont sorti un deuxième, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
Et ça a permis de relancer la franchise sur des bons rails, même si elle était bien partie.
Même l'idée, tu vois, de refaire un film, je pense, ça va être toujours dans cette optique de quelqu'un de jeune et de femme forte, bien mise en avant. Et on oublie maintenant cette idée de la Tomb Raider sexy de Playboy, quoi.
Oui.
Et c'est, ça fait, c'est Lara Croft, je crois que
Lara Croft,
t'es fourvoyé.
Oui,
c'est aussi mon avis. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit reparti sur de bonnes bases et d'avoir changé un personnage qu'on connaissait pour sa poitrine et de l'avoir changé pour un personnage qu'on connaît pour ce qu'a fait. ce qui est vraiment une bonne chose.
Donc, est-ce qu'on conseille d'acheter ce jeu ?
Alors oui, clairement, vous pouvez l'avoir pour 20€ facilement sur Xbox One ou même moins.
10€ sur Xbox 360, PS3 facilement. En promo sur PC aussi, vraiment, vraiment pas cher.
Donc n'hésitez pas. Peut-être après le deuxième, à ce qui paraît, est bien meilleur, mais moi je conseillerais quand même d'attendre un petit peu qu'il baisse de prix.
Commencez par le premier, voyez si vous aimez. C'est pas un gros investissement de toute façon.
Mais le 2 a l'air plus prometteur parce que le décor a l'air d'être plus intéressant.
Ouais, peut-être moins d'énigmes à ce qui paraît, mais
on verra.
Personne l'a fait autour de la table, donc on va pas pouvoir en discuter.
Une seule phrase, moi je dirais que je vous le recommande aussi. Jouez-le avec des potes. Jouez-le en une soirée potes et achetez des pizzas, ce sera vraiment un très bon jeu.
Très bon jeu popcorn. Alors, est-ce qu'il nous reste assez de temps pour...
Alors non, moi je propose qu'on clôture avec une dernière musique.
Ouais.
Donc je vous propose donc une musique de Linkin Park intitulée The Cataclysm, qui était donc la BO du jeu vidéo de Electronic Arts intitulé Medal of Honor Warfighter. Donc on écoute tout de suite Linkin Park et à tout de suite. Oui, donc nous revenons sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour clôturer l'émission C'est la faute à la manette. Donc Julien, Tom, nous allons nous dire au revoir et à dans deux semaines.
Eh bien écoutez, merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Nous, on a été très très contents de faire cette première émission avec vous.
Merci à tous.
Merci à tous et si vous avez des idées pour qu'on puisse s'améliorer ou traiter d'un sujet que vous avez envie... Tom va vous donner un petit peu ce qu'il faut faire.
Alors, nous allons avoir une page Facebook d'ici peu. Vous pourrez donc nous contacter dessus. Donc, elle s'appelle C'est la faute à la manette.
Tout simplement.
Voilà le nom de l'émission. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Il est même possible qu'on en sélectionne une qu'on traitera donc dans une émission future. Ce qui pourrait être donc assez intéressant d'avoir une petite interaction.
Voilà.
Donc voilà, donc à dans 2 semaines pour une nouvelle émission de C'est la faute à la manette. Et tout de suite, on va retrouver Just Story sur Radio Campus Tours. À bientôt.
Ciao.
À bientôt.